Bienvenue dans ce deep dive. Aujourd'hui, on se penche sur une comparaison assez attendue, celle entre l'ICOM IC7300 et son successeur qui vient d'être annoncé, l'IC7300 MK2. On a une analyse détaillée sous les yeux et l'idée, c'est de voir ce qui change vraiment et si cette nouvelle version rebat un peu les cartes. Ok, alors allons-y. Déjà, il faut se rappeler que l'IC7300, quand il est sorti en 2016, ça a été un vrai tournant. Il a, démocratisé la technologie SDR à échantillonnage RF direct. C'était vers les 1 500 $, alors que avant, c'était réservé aux très hauts de gamme. Du coup, tout le monde, ou presque, pouvait avoir un analyseur de spectre temps réel, un écran tactile, couleur. Le succès a été dingue, plus de 100 000 vendus.
Ah oui, un succès phénoménal. Et puis, c'était surtout l'architecture qui était fascinante. Le fait de numériser directement le signal RF, ça a éliminé pas mal de sources de bruit qu'on avait sur les récepteurs plus classiques. Résultat, une meilleure sensibilité, on pouvait mieux voir les signaux faibles. Et puis cet écran, oui, le 4,3 pouces avec le waterfall, ça a vraiment changé l'ergonomie.
Le waterfall, oui.
C'est devenu beaucoup plus visuel, plus intuitif pour explorer les bandes.
Et voilà qu'en août 2025, ICOM nous annonce l'IC7300 MK2. Alors, c'est pas une réinvention totale, ça a l'air d'être une évolution assez ciblée. On dirait qu'ils ont vraiment écouté les retours des utilisateurs pendant presque 10 ans. Et qu'ils répondent aussi à la concurrence qui s'est réveillée. Je pense aux Yaesu, les FT710 ou FTDX10.
C'est exactement ça. En fait, le MK2, il cherche à consolider l'héritage, mais en corrigeant les points faibles qui avaient été identifiés. Si on regarde les améliorations clés, d'abord les performances radio. Le RMDR, le Reciprocal Mixing Dynamic Range, cette mesure importante pour voir comment le récepteur gère un signal faible à côté d'un très fort, il passe d'environ 97-100 dB à presque 105 dB.
Ah oui, 105 dB. C'est un gain significatif, ça. 5 à 8 dB de plus.
C'est notable, oui.
Concrètement, ça veut dire moins de risque de saturation du récepteur quand les bandes sont pleines, ou en concours, par exemple. Ça le place comment par rapport à la concurrence actuelle dans cette gamme de prix ?
Oui, tout à fait. Moins de risque d'être aveuglé par une station très forte juste à côté. Et ce gain, effectivement, ça le rapproche de ce que faisaient des récepteurs plus chers il y a quelques années. Ça le positionne même plutôt bien face à certains concurrents directs d'aujourd'hui, sur ce critère en tout cas. Et côté émission, il y a aussi du mieux. Le bruit de phase est amélioré d'environ 12 dB.
12 dB, c'est pas mal.
Non, c'est bien. Ça veut dire un signal plus propre, donc potentiellement moins de gêne pour les voisins sur la bande. Et puis, il consomme un peu moins, 0,7 en veille contre 0,9 à avant, et il chauffe moins. Ça, c'est toujours bon pour la fiabilité sur la durée.
D'accord, intéressant pour les perfs purs. Mais si je me souviens bien, les plus grosses frustrations pour beaucoup, c'était la collectique, non ? C'était un peu limité sur l'original pour certains usages.
Absolument. C'était un point faible souvent remonté. Et là, le MK2 répond présent. Fini le connecteur d'antenne unique qui devait tout faire. On a enfin une entrée et une sortie dédiées pour une antenne de réception externe. Ce sont des connecteurs SMA. Ça, c'est essentiel pour ceux qui utilisent des antennes RX spécifiques, pour le DX notamment.
Ah, l'antenne RX séparée. Oui, ça, c'était la demande récurrente, on l'entendait partout. Et les autres ajouts, c'est de la nouveauté ou c'est juste une mise à niveau logique ?
Bonne question. Alors, le vieux port USB-B, il disparaît au profit d'un USB-C. Bon, ça c'est moderne. Il gère l'audio, le contrôle CAT, mais surtout, et c'est ça l'important, deux ports COM virtuels. Deux ports COM.
Oui, fini les bidouilles logicielles.
C'était parfois un vrai casse-tête avec l'ancien port pour faire tourner, un logiciel de log en même temps que WSJTX pour les modes numériques.
Ah oui, je vois bien le problème. Ensuite, il y a une sortie vidéo HDMI. Pratique pour afficher le scope sur un grand écran. Et point très important, hérité des gammes au-dessus, un port Ethernet LAN. Ethernet.
Carrément, oui. Et ça simplifie énormément le contrôle à distance, par exemple avec le logiciel RSBA1 d'ICOM. Plus besoin d'avoir un PC allumé en permanence près du poste radio. Donc, USB-C, HDMI, Ethernet, ça fait une sacrée mise à jour de l'interface avec l'extérieur. On note aussi un petit truc en plus, un décodeur Morse CW affiché à l'écran. C'est un gadget ou ça peut être utile ?
Disons que c'est plutôt pratique. Pour vérifier vite fait un indicatif qu'on n'est pas sûr d'avoir bien copié, ou pour s'entraîner un peu au décodage à l'oreille. C'est pas la fonction du siècle, mais c'est un plus sympa, oui.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Déjà, l'IC 7100 original, il n'est pas bon pour la casse, hein, loin de là. Il reste une super valeur sûre. Surtout que son prix en occasion, on peut imaginer qu'il va baisser un peu, peut-être vers 700, 800 euros. Ça va le rendre encore plus intéressant. C'est toujours un excellent choix pour démarrer ou si on a un budget un peu serré.
Oui, c'est sûr. Et pour ceux qui ont déjà un i7 3000, est-ce que ça vaut le coup de passer au MK2? Ça se justifie surtout si on est un utilisateur assez actif et qu'on sent les limites de l'original. Par exemple, si on a vraiment besoin d'une antenne RX dédiée pour aller chercher le DX rare.
Exactement. Ou si on cherche les toutes meilleures performances en concours, si on utilise beaucoup les modes numériques et que les deux ports com virtuels sont un vrai plus, ou alors si le contrôle à distance via Ethernet est devenu indispensable. Le MK2 apporte des réponses concrètes à ces besoins précis.
D'accord.
Et pour quelqu'un qui cherche un nouvel appareil principal aujourd'hui, dans cette gamme de prix, disons entre 1200 et 1600 euros, c'est une estimation bien sûr, eh bien l'IC 7300 MK2, il se positionne clairement comme le nouveau standard potentiel. Il offre un package performance RF amélioré et connectivité enfin moderne, très compétitif.
Ce qui nous amène à la question finale en fait. Avec ces améliorations qui sont bien ciblées mais quand même significatives, est-ce que l'IC 7300 MK2 se contente de corriger les défauts de jeunesse de son grand frère ou est-ce qu'il établit carrément une nouvelle référence qui va obliger toute la concurrence dans le milieu de gamme à réagir et à s'aligner? C'est une question à méditer, je pense.